Ceux qui viennent de loin et ceux qui viennent de près. Bonjour à tous. Ceux qui viennent depuis souvent, longtemps. Ceux qui viennent plus rarement, mais on est tellement heureux de les voir. Ceux qui viennent peut-être pour la première fois. Donc, bienvenue à tous pour ce temps de partage. C'est le week-end de Pâques. Il y a 53 ans, le 2 avril 72, il y a eu Pâques. Une semaine après, le 9 avril 72, j'ai eu mon anniversaire, 15 ans. Faites le calcul, hein, après, je vous laisse. Et une semaine après, le... Alors donc ça fait 9 et 7, 16, c'est ça, hein, 16. Je rentrais pour la première fois dans une église en tant que jeune garçon, dans une église apostolique au Havre. Alors que j'avais jamais mis les pieds dans une église auparavant, mais avec une telle envie de voir autre chose que ce que la vie me proposait et qui me laissait quelque peu désabusé, même à 15 ans. Et au fil des semaines, j'ai découvert ce que Pâques pouvait être, quel sens ça pouvait avoir. Et finalement, ça a été un bouleversement dans ma vie. Alors je me suis dit, ce matin, nous sommes au moment de Pâques et j'ai envie de lire avec vous un passage de l'évangile de Luc. Chapitre 22, à partir du verset 7. Le jour des pains sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Ils lui dirent, « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit, « Voici, quand vous serez rentrés dans la ville, un homme portant une cruche d'eau vous rencontrera. Suivez-le dans la maison où il entrera et vous direz au maître de la maison, « Le maître te dit, où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Et il vous montrera une grande chambre haute aménagé, c'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent, trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Leur venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui, il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Il prit une coupe, rendit grâce et dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. » Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe après le repas et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Cependant, voici, celui qui me livre est à cette table avec moi. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à cet homme-là par qui il est livré. Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui allait faire ça. Il s'éleva aussi parmi eux une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand ? Jésus leur dit, les rois des nations les dominent et ceux qui ont autorité sur elles se font appeler bienfaiteurs. Il n'en est pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car qui est le plus grand ? Celui qui est à table ou celui qui sert ? N'est-ce pas celui qui est à table ? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves, c'est pourquoi je dispose du royaume pour vous comme mon Père en a disposé pour moi, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. J'aurais pu lire plus loin et j'aurais pu lire avant ce texte. Alors, Parce que c'est, il y a, je le disais, ou je le dis souvent quand on lit un texte, soyons méfiants de ne pas avoir avant des clés qui nous aident à le comprendre et d'avoir après aussi des clés qui nous permettent de le comprendre. Nous célébrons la fête de Pâques ces jours-ci et ça m'a semblé opportun de méditer sur le parcours que les disciples ont fait aux côtés de Jésus, sur les dernières heures que celui-ci a vécues avec eux. J'ai regardé ce texte-là, de la préparation de la Pâque jusqu'à la résurrection. Alors je m'attacherai particulièrement à un des témoins de ce parcours-là, et ce témoin, c'est l'apôtre Pierre. Un témoin privilégié, un proche de Jésus, qui a eu le privilège de le suivre et de franchir toutes les étapes d'un homme étranger aux choses de Dieu jusqu'à devenir un pilier de l'Église naissante. Alors, la dernière Pâque, c'est la dernière Pâque. C'est le texte dans l'évangile de Luc, il y en a aussi dans l'évangile de Jean. C'est celui que nous avons lu ici avec nos amis catholiques, l'Église protestante unie de Lorient et l'Église malgache de Pont-Scorff qui était avec nous. Et donc, on a pu lire l'évangile de Jean avec le texte de la Passion. La dernière Pâque de Jésus, c'est ce moment-là où on se rend compte que les voyages de Jésus pour célébrer la Pâque dans les évangiles sont les seules indications temporelles pour déterminer la durée de son ministère. On le retrouve comme cela dans les évangiles. C'est un moment où la Pâque des Juifs était proche. Qu'eurent lieu le miracle, la multiplication des pains, la marche de Jésus sur l'eau, mais aussi de Pierre. Et un peu après aussi, la confession de Pierre disant à Jésus, à Césarée, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Et c'est à partir de ce dernier épisode où Pierre a dit ceci à Jésus que les chefs religieux ont commencé ouvertement à rechercher à le tuer. Et Jésus, de son côté, parle à ses disciples avec une insistance grandissante sur l'imminence de sa mort, de la nécessité pour eux de rester fermes dans leur foi. Et malgré leur incompréhension, il va leur expliquer, ou en tout cas introduire, le mystère de sa résurrection, de sa mort et de sa résurrection, et l'avènement du royaume de Dieu et la venue des noces de l'agneau. Pour être clair, vous ne comprenez pas grand-chose. Alors ça peut vous rassurer si vous êtes un peu perdu dans les choses de Dieu, les mystères annoncés par Christ, l'apôtre Pierre était paumé de la même manière. Et dans l'évangile que nous venons de lire, l'évangile de Luc, au chapitre 22, il est dit que le jour des pains sans levain où on devait immoler la Pâque arriva, c'est-à-dire la Pâque juive. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions ». Vous savez que épisodiquement, le hasard des calendriers font que la Pâque juive et la Pâque chrétienne coïncident sur la même semaine. Et c'est le cas cette année. C'est-à-dire, depuis samedi jusqu'à samedi prochain, c'est la Pâque juive. C'est-à-dire, la célébration pour les Juifs du moment où ils ont été libérés de la tutelle de Pharaon par Moïse et qu'ils sont partis vers la terre promise. Bon, ils ont fait un petit crochet de 40 ans. Ça me ressemble beaucoup, ça. Moi, on dit souvent, je me perds dans mes voyages, les Juifs, à la sortie de l'Égypte, ils ont été pareils. Ils sont sortis, ils ont été libérés, après ils ont fait 40 ans dans le désert. Mais la Pâque juive, c'est la célébration de cette libération. Et Luc a jugé bon de nous préciser que, à l'occasion de cette fête qui se passait en Israël, c'est la fête la plus importante. Un petit peu comme nous, on dirait Noël, en termes d'impact festif dans notre société, pour Israël, la chose la plus importante, c'est Pâques et le salut, la liberté acquise par rapport à Pharaon. Et Luc a jugé bon de nous préciser que Jésus envoya Pierre et Jean pour préparer la Pâque juive. Et c'est vraiment quelque chose qui est précisé. La dernière Pâque que Jésus va célébrer en tant que juif soumis à la loi, et en la préparant pour lui, Pierre et Jean, récapitule en quelque sorte tout ce que l'Ancien Testament, la Torah, impose de faire pour fêter Pâques. Ils font pour Jésus une dernière fois un geste qui, le soir même, va aboutir à une nouvelle alliance. Ils ne le savent pas, seul Jésus le sait, même s'il leur en a parlé, même s'il les a préparés, ils n'ont rien compris, on le verra plus. On l'a vu dans la dernière partie du texte que nous avons lu. Ils écoutent, ils entendent, mais ils ne comprennent pas grand-chose. Il est remarquable que le Saint-Esprit ait inspiré les auteurs des évangiles, notamment Luc et Jean, en appelant cette Pâque la fête des Juifs. Parce qu'en fait, c'est comme si le Saint-Esprit disait « Pâque, c'est la fête des Juifs ». Mais à partir du moment où Jésus s'assoit à table avec ses disciples, ça devient autre chose. Et j'ai envie de dire que si j'avais un titre à mettre, ça c'est pour nos techniciens, cette lecture de ce passage, ça serait la préparation de la Pâque à la fraction du pain. Bon, en fait, c'est ça ce qui va se passer. C'est qu'on rentre dans la fête pascale juive, ils ont tout préparé comme il fallait. Nicole n'aurait pas mieux fait. Hein. Ah si, si, elle n'est pas là, je peux en parler. Hein. C'est elle qui prépare les repas, etc. Hein. Elle n'aurait pas mieux. Ça, c'était aux petits oignons, c'était fait. Pierre et Jean avaient tout fait, préparé dans tous les détails. Sauf qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'au cours du repas, quand il a pris le pain, en fait, il a dit « ceci est mon corps ». Il a pris la coupe « ceci est mon sang ». Et vous savez que ce pain, il avait dans la tradition juive une particularité, c'est qu'il était posé sur la table, recouvert d'une serviette et personne ne le prenait. Il y avait une coupe qui était juste à côté et puis il y avait du vin dedans et personne ne la buvait. Parce qu'en fait, cette coupe et ce pain, c'était prévu au cas où le Messie pousserait la porte et rentrerait. Tous les juifs, dans toutes les maisons, faisaient ça. Aujourd'hui encore, pour les juifs traditionnels, ils fêtent la Pâque, la libération de la servitude, l'arrivée de la vie au lieu de l'esclavage. Et puis sur la table, ils ont une coupe et un pain. Sauf que ce jour-là, et c'est le pasteur Guénassia, qui était un juif messianique, qui avait beaucoup travaillé sur cette question-là, et Paul Guénassia disait, c'est la première fois depuis des centaines d'années que quelqu'un a soulevé la serviette, a pris ce pain, pas n'importe quel pain, celui-là, réservé au Messie, et qu'il l'a cassé, dit, ceci est mon corps. Annonçant par là même, sans prononcer les mots, qu'il était bien le Messie qu'Israël attendait depuis des centaines et des centaines d'années. Et là, quand Luc parle de cette fête de Pâques, cette dernière Pâque de Jésus avec ses disciples, le Saint-Esprit dit à Luc et à Jean, écrivez donc, c'est la fête des Juifs. Mais pourquoi écrivent-ils ça? Tout simplement parce que les évangiles, Luc et Jean, ont été écrits quasiment 40 ans après ce repas-là. Les évangiles n'ont pas été écrits le lendemain du repas de Pâques, ou de la crucifixion, ou de la résurrection. Non, 40 ans après. Et dans ces 40 années, eh bien, les chrétiens juifs ont fait la différence entre le repas de Pâques juif, la fête juive, et le fait que l'Église ne célébrait plus Pâques comme un rite de Moïse, avec une perspective prophétique, le Messie va venir, etc., mettons le pain sous la serviette, etc., mais comme le mémorial du triomphe de la résurrection et de la glorification du Fils de Dieu. C'est cela que les chrétiens juifs, alors quand les évangélistes écrivent, ils disent « la fête juive de Pâques, nous on n'est plus là-dedans. Aujourd'hui, le Christ est mort, oui, mais il est ressuscité. » Alors j'imagine que même pour l'entourage familial de Jésus, Jésus était juif, sa famille était juive, il y avait Marie, on parle très peu de Joseph, on ne sait pas ce qu'il est devenu, mais on imagine qu'il pouvait être encore là, ses frères et ses sœurs, puisqu'il avait des frères et sœurs, est-il dit dans les évangiles. Ce glissement du sens de la Pâque a dû être particulièrement lourd de sens, non? Pour une bonne famille juive. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, verset 41, il est dit que les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de Pâques. Ils partaient de Nazareth et ils allaient au temple et puis ils fêtaient Pâques en famille. Ouais. Nous voyons donc qu'ils étaient respectueux de la Torah et des règles qu'impose la loi juive vis-à-vis de chaque famille. Et à Pâques, on allait à Jérusalem quand on était à proximité. On allait au temple. Et si ils étaient des bons juifs qui allaient à Pâques, à Jérusalem et au temple pour respecter la loi, alors ils ont fait quelque chose dont j'aimerais vous parler. Ils ont fait quelque chose à la naissance de Jésus au terme des 30 premiers jours. On entend souvent parler de la présentation au temple à peu près 8 jours après la naissance. Oui, d'accord. Mais toute famille juive a une obligation au terme des 30 premiers jours. Ils doivent racheter leur fils aîné. Ah, vous étiez au courant de ça? Qui a un fils aîné ici? Moi, j'ai un fils aîné. Quand j'ai lu ça, il y a quelque temps, je me suis dit, tiens, si j'avais dû faire ça. En fait, vous vous rappelez que la fête de Pâques, c'est quand le peuple juif est libéré de la tutelle de Pharaon et de l'esclavage. Mais la dernière des plaies d'Égypte, vous vous souvenez ce que c'est? La dernière des plaies d'Égypte, la dixième plaie, c'est quand Pharaon, refusant de laisser partir le peuple d'Israël qui travaillait gratuitement, encore un patron qui avait des mauvaises habitudes, eh bien, il a dit, non, je ne vous laisse pas partir, etc. Et donc, de ce coup, le Seigneur dit à Moïse, eh bien, tu lui annonces que un ange passera sur l'Égypte et que tous les premiers-nés des hommes et des animaux mourront pendant la nuit. Mais vous, prenez le sang d'un agneau, mettez-le sur le montant de vos portes. Et quand l'ange passera, eh bien, vous serez préservés et aucun de vos premiers-nés qui sera dans vos maisons ne sera touché par l'ange de la mort. Le mot Pâques vient de cela. Hein. Le mot Pâques vient du passage de l'ange. Pessah. Pessah en hébreu, Pâques, c'est le passage de l'ange. Mais quand Israël a été préservé de cette chose, eh bien, Dieu a dit, bah oui, mais vous, vos premiers-nés, ont été préservés. Alors, tous vos premiers-nés, vos garçons premiers-nés, devront m'être consacrés comme prêtres. Ils deviendront des Kohanim, c'est-à-dire des prêtres qui me serviront dans leur maison. Ils seront et dans leur maison et dans mon temple, mais en tout cas, ils me seront consacrés. Tous les premiers-nés. D'accord, Seigneur, c'est pas cher payé, vu le passage de l'ange de la mort. Et Israël a quitté. Et ils ont traversé la mer Rouge, et puis sont arrivés au pied du mont Sinaï. Et vous vous rappelez ce qui s'est passé ? Arrivé à cet endroit-là, Moïse est monté sur la montagne, et c'est là qu'il a reçu les tables de la loi. Et pendant qu'il était absent, le peuple d'Israël a dit « Oui, mais nous, on a un Dieu qu'on ne voit pas, et puis Israël, ils ont des dieux qu'ils voient, et puis les Babyloniens aussi, etc. Donc nous, on veut aussi avoir un Dieu qu'on puisse voir et qui marche devant nous. » Et puis Aaron, le frère de Moïse, disait « Mais on ne peut pas faire ça, on ne peut pas. » Et finalement, ils ont tellement insisté, certainement avec menace et force de geste, que finalement, ils ont dit « Aaron, fabrique-nous un Dieu !» Et là, Aaron a dit, mortez-moi votre or, votre argent. Et ils ont fondu cela et ils en ont sorti un veau d'or. Ils ont dit, voilà notre Dieu. Et alors, quand Moïse est redescendu, colère de Dieu, colère de Moïse. Et puis finalement, punition, sanction, mais aussi Dieu qui dit, voilà, ils ne m'obéissent pas. Et Moïse est obligé de remonter parce qu'il a cassé les tables. Oui, c'est sa tablette, vous savez. Il avait une tablette, hein, et puis il avait écrit 10 commandements dessus et tout. Et de colère, il a cassé sa tablette. Il n'y avait pas boulanger dans le coin, donc il n'a pas pu en racheter une autre. Et il a remonté sur la montagne pour dire au Seigneur, écoute, voilà, maintenant il faut que tu me redonnes parce que... Et puis, cette règle où les premiers-nés devaient être prêtres, à partir de là, dans Exode, je crois que c'est chapitre 12, Dieu dit, bah, ça c'est aboli. Vos premiers-nés ne pourront plus me servir parce que vous m'avez désobéi, vous vous êtes éloigné de moi. Alors, je vais faire quelque chose. Dès qu'il y aura maintenant, on est juste à la sortie de l'Égypte, hein, ils ne sont pas encore entrés dans la terre promise. Dès que vous aurez un fils premier-né, eh bien, votre fils premier-né devra être racheté, puisqu'il ne peut plus être Kohanim, prêtre dans mon temple. Eh bien, il faudra que vous payiez pour lui, que vous rachetiez sa charge, pour qu'un prêtre serve dans la maison de votre Dieu à sa place. Tous les fils premiers-nés, le prix, 5 pièces d'argent. 5 pièces d'argent pour que votre fils, qui ne peut plus me servir à cause de votre désobéissance, puisse, son rôle puisse être tenu par un prêtre. Toutes les familles, le fils aîné, on devait payer, et on paye toujours, à l'heure actuelle. Et il y a un prix qui est basé sur le prix de l'orge. Alors simplement parce qu'il y a une équivalence qui a été faite dans le livre de l'Exode. Et maintenant encore, en 2020, il y avait un prix qui était donné où chaque juif qui a un fils aîné, il doit payer tant auprès d'un kohanim, d'un prêtre de la communauté, pour que son fils puisse être libéré de son devoir et que quelqu'un assume son devoir à sa place. Ça s'appelle le pidyon aben, c'est-à-dire le premier-né masculin à Dieu. Cette tradition-là, elle existe toujours. Ça veut dire que Jésus, quand il est né, eh ben, Joseph et Marie, ils ont dû aller, quand il avait un mois, à Jérusalem, et puis ils ont dû donner 5 pièces d'argent pour que la loi soit respectée. Et si nous lisons l'Écriture, on n'a pas lu juste avant ce récit. Rappelez, on a pris Luc 22, le jour des pains sans levain où on devait immoler la Pâque arriva. Et si on regardait juste au-dessus, qu'est-ce qui se passe? Vous savez quel est le récit qui est juste avant? La fête des pains... Tiens, on revient sur le calendrier. La fête des pains sans levain, il insiste Luc, hein, appelée la Pâque, approchait. Quand on a lu le passage, c'était le jour de la pince sans levain, où on devait arriver. C'est-à-dire qu'il y a deux, on est juste à quelques heures. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient comment faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Alors ils veulent le faire mourir, puis en même temps ils disent, ouais, mais il a une bonne popularité auprès du peuple, donc il faut qu'on le fasse de manière discrète, que ça puisse se faire, sans qu'on nous mette ça sur les épaules. Donc ils cherchent. Or, Satan entra dans Judas, appelé Iscariote, qui était au nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. C'est le message de Pâques, c'est la réalité. Pâques, c'est déjà ça qui se met en route. Ils furent dans la joie. Chouette, on a un moyen. Et convinrent de lui donner de l'argent. Il l'accepta et se mit à chercher une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Il a reçu de l'argent et il a été payé. Combien a-t-il reçu? Vous avez un souvenir? Combien? 30. 30 pièces d'argent. Mais ce n'est pas un hasard s'il y a ce récit-là. Plusieurs centaines d'années auparavant, un prophète d'Israël qui était en déportation a eu une vision, et il a eu une vision, c'est Zacharie au chapitre 11, verset 12, où il prophétise vis-à-vis d'Israël, et il prophétise par rapport à un peuple qui s'est écarté de Dieu. Et quand il prophétise, Il s'aperçoit que personne ne veut l'écouter, personne ne veut revenir à Dieu. Et donc, il dit, bah, c'est comme ça. Donc, bah, payez-moi pour le travail que j'ai fait pour vous de la part du Seigneur, puisque c'est comme ça. Et il lui donne combien? 30 pièces d'argent, 30 pièces d'or, plusieurs centaines d'années. Et évidemment, Zacharie ne va pas, utiliser cet argent pour lui, et il va utiliser cet argent-là comme un acte prophétique. Il va donner cet argent-là à un potier. C'est tout ce qu'il est dit. Et vous savez, plusieurs centaines d'années après, quand Judas va trahir Jésus, il va recevoir 30 pièces d'argent, et puis, pris de remords après la crucifixion et la mort de Jésus, il va retourner voir les sacrificateurs, il va balancer les 30 pièces d'argent et il va se pendre. Et les sacrificateurs disent « Ouais, mais nous, on ne peut pas reprendre cet argent-là qui est le prix du sang. » Et donc, qu'est-ce qu'on en fait ? On va acheter un champ dans lequel il y a des tombeaux, et puis on y enterrera les étrangers. Comment s'appelait ce champ ? C'est le champ du potier. 600 ans après la prophétie de Zacharie, la même chose, 30 pièces d'argent, le potier, 30 pièces d'argent, le champ du potier, et pour enterrer les étrangers. Beaucoup d'exégètes disent, vous voyez, la mort de Christ sert aussi à prendre soin des étrangers, des non-juifs. Ça veut dire que tout à coup, l'ouverture se fait pour que la mort de Christ donne accès au royaume de Dieu pour les étrangers. Les parents de Jésus ont payé pour Jésus, leur fils aîné, 5 pièces d'argent. 30 ans plus tard, les sacrificateurs payent 30 pièces d'argent pour le faire mourir. Ainsi s'accomplit la prophétie, mais aussi ce geste de la part des sacrificateurs du rejet du Messie. C'est-à-dire quand ils donnent ces 30 pièces d'argent, ils disent « Nous, nous ne voulons pas de ce Jésus-là ! Faisons en sorte de nous en séparer, de le tuer. » C'est-à-dire que le Messie qui était annoncé, ils ont payé 6 fois le prix qu'ils avaient reçu pour le représenter à sa naissance, 6 fois pour le faire mourir. Le rejet de celui qui, par essence, est le grand sacrificateur de la lignée de Melchisédek. Vous connaissez ce récit de la Genèse. Le Messie, il est de la lignée de Melchisédek. Ils payent 6 fois le prix qu'ils avaient reçu. À l'origine, Dieu avait destiné la fonction de Cohen au fils aîné pour le représenter au temple. Là, ces 30 pièces, c'est les sacrificateurs qui disent « On te rend ton statut, quelque part, de fils aîné et donc de représentant de Dieu. On ne veut pas te représenter. » On se dit, c'est un geste fort, au-delà du paiement de ces 30 pièces d'argent à Judas. 6 fois le prix qu'ils avaient payé 30 ans avant. Ah, j'aime bien ce 6. 6 fois. Ouais, je crois que 6 fois 5, ça fait bien 30. Hein. On est d'accord. 6 fois. Et le 6... Il y a plusieurs représentations symboliques. Le 6, c'est dans le judaïsme en lien avec le 6e jour où Dieu créa l'homme et la femme. C'est cela, le 6. Et dans le judaïsme, le chiffre 6 représente entre autres ou symbolise le fait de considérer la création de l'homme pour l'homme. L'homme sans Dieu. L'homme qui refuse d'être sa création et qui veut profiter du monde de manière égoïste à son profit. Il est donc symboliquement le symbole du péché de l'orgueil. Et lorsque les sacrificateurs et les prêtres balancent ces 30 pièces d'or à Judas, c'est pour dire, voilà, nous on ne veut pas de celui-là. Mais que dit l'évangile de Jean ? Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Christ est la parole, et il est Dieu. En quelque sorte, les sacrificateurs disent, nous, on donne le prix, 6 fois le prix qui nous a été donné, parce qu'on ne veut pas de ce Dieu-là. Nous ne voulons pas de cet homme-là. Nous ne voulons pas du Messie que nous attendons depuis des centaines et des centaines d'années. Ah, c'est un sens fort que ces 30 pièces d'or. Et puis j'ai trouvé dans la signification aussi quelque chose qui n'a rien à voir. Ça, c'est juste mon petit plaisir à moi quand je travaille l'écriture, je vais un petit peu me promener dans d'autres chemins qui ne sont pas forcément de la révélation, c'est simplement que ça m'amuse. Si, je me suis dit, mais est-ce que ça a une autre signification? Puis en fait, je me suis rendu compte que 6, en mathématiques, c'est un chiffre pair, oui, mais plus. En mathématiques, non, pas premier, c'est un chiffre parfait. C'est un chiffre parfait. Alors la définition des chiffres parfaits, ce sont des chiffres entiers qui sont égaux à la somme de leurs diviseurs. Notez, parce que je ne vais pas le répéter 36 fois. 6, hein. C'est un nombre parfait. Alors, les deux premiers, c'est 6 et 28. C'est un nombre entier qui est égal à la somme de leurs diviseurs. Alors, par exemple, 6, ça se divise par 2, 3 et... Ben non, 1. Hein? Le chiffre se divise par 2, 3 et 1. Et vous faites 1 plus 2 plus 3, ça fait 6. Tous les chiffres parfaits sont égaux à la somme de leurs diviseurs. 28, si je me rappelle, c'est 1, 2... En fait, je ne me rappelle pas, je suis en train de le lire. Je viens de me rendre compte que je l'ai écrit. Alors, 28, c'est 1, 2, 4, 7 et 14. C'est un nombre parfait. 1 plus 2 plus 4 plus 7 plus 14, ça fait 28. Et j'irais, moi j'aimais bien cette idée. Alors, ce n'est pas dans la Bible, hein, je ne vous sors pas quelque chose qui est de l'ordre de la révélation, mais j'aime bien cette idée de chiffre parfait. 6, c'est le chiffre parfait pour les sacrificateurs pour se libérer en tant qu'homme de la charge qu'ils avaient reçue d'accueillir Jésus. L'homme a toujours une bonne raison pour rejeter Christ. Et c'est des raisons parfaites humainement, comme le chiffre 6. Le paiement est parfait tant du côté des sacrificateurs que pour Jésus qui retrouve à ce moment-là son statut à part entière de Kohanim, c'est-à-dire de représentant de Dieu et de fils aîné consacré. Alléluia. Moi, j'aime bien ces petits détails qui disent « Pâques n'est pas le fruit du hasard ». Quand je disais tout à l'heure qu'au début du texte que nous avons lu, il dit « Le jour des pains sans levain où on devait immoler la Pâque arriva ». Juste la trahison de Judas, c'est le jour des pains sans levain, appelé la Pâque, approchait. Tout est inscrit dans les temps de Dieu. La Pâque, la naissance, la mort de Christ, c'est un plan qui se réalise et qui a été mis en place par Dieu. Luc nous donne la précision que Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque ». C'est la dernière Pâque que Jésus va célébrer en tant que juif soumis à la loi. Et en la préparant, ils accomplissent la loi dans un dernier geste qui va le soir aboutir à une nouvelle alliance. Le partage du pain et de la coupe, ça abolit tout ce qui avait été établi par Moïse au sein de la Torah et qui devait aboutir à cet instant-là. Le pain que nous partageons, la coupe que nous partageons, c'est la nouvelle alliance qui se trouve accomplie en Christ. L'Église a abandonné le rite mosaïque pour poser ce principe. Mais je me suis posé une question en préparant ce message. Je me suis dit, mais pourquoi Pierre et Jean? Il avait 12 apôtres. Bon, je comprends qu'il n'ait pas choisi Judas. Il savait déjà que de ce côté-là, c'est lui qui tenait les cordons de la bourse à leur préparer. On sait bien que que les trésoriers de l'association cultuelle... Non, je plaisante. Il en faut. Mais... pourquoi Pierre et Jean? Il est dit que Jésus sait que l'heure est venue. Et en fait, on s'aperçoit que Pierre est celui qui, peu avant, a prononcé ces mots, alors que les autres disaient « Oui, qu'est-ce que vous dites que je suis ?» leur pose comme question Jésus. Et puis ils disent « Ah, qui tu es ?» Ils cherchent Jésus. Alors ils disent, oui, ben, les autres, ils disent que peut-être tu es une réincarnation de Jean-Baptiste, peut-être que tu es Élie qui doit revenir, etc. Et puis, Pierre a cette révélation de l'Esprit-Saint, il dit, tu es le Fils de Dieu, celui qui doit venir, tu es le Messie. Personne en Israël n'avait le droit de prononcer ces mots ou d'imaginer cela. Les chefs religieux devaient être informés et éventuellement dire, oui, il y a peut-être quelque chose là, mais personne. Pierre, un homme simple, un pécheur, tout à coup réalise et a cette révélation, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Alors, j'ai envie de dire que, ouais, préparer la dernière Pâque, bah, fallait choisir le meilleur, non ? Puis en même temps, on se dit, attends, Jésus lui dira, « Ah, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Il dira même, à un moment donné, « Tu auras les clés du royaume des cieux. » Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va mettre la table. Je me rappelle, elle n'est pas là, Abiba, non ? Quand Abiba était là, il y a plusieurs années, après un pique-nique, j'ai pris un balai pour balayer le sol parce qu'on avait mis des miettes. Et Abiba est venu vers moi, elle m'a dit, ah non, pas vous. Je dis, mais je passe le balai à la maison, enfin à l'aspirateur. Je suis un peu feignant. Et là, elle m'a dit, ah non, pas vous. Mais j'ai envie de dire, est-ce qu'on n'aurait pas pu dire ça ? Attends, Pierre, c'est sur cette pierre, on va bâtir l'église. Tu ne vas quand même pas aller préparer la table, les aliments, les plats, réserver la salle, etc. Et pourtant, quand on voit le choix de Jésus, il sait que Pierre est dans un temps de flottement. Il croit. Mais en même temps, c'est lui qui va renier Jésus 3 reprises au moment où il est arrêté. Il sait qu'il aura du mal à se pardonner à lui-même. On le voit à la fin de l'évangile de Jean, quand Jésus lui demande « Est-ce que tu m'aimes ?» Et Pierre n'arrive pas, il n'arrive pas à lui dire « Je t'aime ». C'est trop difficile à cause des reniements qu'il a fait. Est-ce que tu m'aimes une fois ? Est-ce que tu m'aimes 2 fois ? Est-ce que tu m'aimes 3 fois ? Et dans la tête de Pierre, « Non, je ne le connais pas. Non, je ne le connais pas. Non, je ne le connais pas. Donc, je ne peux pas te dire « Je t'aime ». Et Jésus ira toujours vers Pierre pour l'aider à lui faire dire « Mais quelles que soient tes erreurs, quel que soit ton chemin, quelle que soit la vie que tu as eue, quelquefois même les moments où tu n'as pas voulu me reconnaître, tu as le droit de m'aimer. C'est Pâques. C'est cela le message de Pâques. Pouvoir aller vers Christ en disant « Comme je suis, Seigneur. » Moi, quand j'avais 15 ans, je peux vous assurer que je n'étais pas beau à voir intérieurement. Extérieurement, si. Mais intérieurement, non. C'est clair. Et pouvoir dire à Dieu, tu sais, je t'aime, c'était difficile. Et je pense que c'est vrai pour chacun d'entre nous. Jésus choisit Pierre parce qu'il sait que Pierre a besoin de rentrer dans cette révélation de Pâques, du Messie. Il a dit, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Mais entre-temps, il va se casser la figure, trahir Jésus, etc. Il est fragile. Pâques, c'est de manière fondamentale l'irruption de Dieu dans l'histoire des hommes. J'ai envie de dire que, quelque part, ce sont les heures de Pâques que nous venons de lire qui sont les moments les plus solennels de l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas la découverte de l'Amérique. Ce n'est pas la découverte de la roue. Ça, j'ai appris ça à l'école. La première fois qu'on m'a dit à l'école, en 6e, la plus grande invention des hommes, c'est la roue. J'ai dit, ah bon, moi je n'avais pas pensé. Je voyais des voitures depuis que j'étais jeune, donc je me dis, je ne pensais pas que c'était la roue qui était la plus grande découverte. La plus grande découverte de l'histoire de l'humanité, c'est le fait que l'homme qui était séparé de Dieu peut à nouveau rentrer en relation avec son Dieu parce que le pardon lui est accordé par le miracle de la croix. Des siècles et des siècles et des siècles, les Juifs ont essayé de trouver ce chemin, de le respecter, en faisant des sacrifices, en accomplissant des prières 5 fois par jour, etc., etc. Et c'était toujours insatisfaisant, c'était toujours imparfait. Et peut-être que tu as essayé, comme moi, de rentrer en relation avec son Dieu, avec ce Dieu-là. Et puis, la constatation, c'est que j'y arrive pas. Par moi-même, c'est impossible. Le livre de Jonas, vous connaissez le livre de Jonas un petit peu, c'est un très beau livre aussi qu'on peut mettre en relation avec l'histoire de Pâques et du tombeau, avec le mort qui est déposé et la résurrection. Jonas vit la même chose par sa désobéissance. Dieu lui dit « Va à Ninive, prophétiser, etc. » appelé à la conversion et Jonas, c'est à l'est, il part à l'ouest. Hein. J'ai l'habitude de dire « Jonas, il est à l'ouest. Hein. » comme beaucoup d'hommes et de femmes qui refusent d'entendre la voix de Dieu. Et en fait, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, en relisant un livre, que dans le texte hébraïque, les premiers mots du livre de Jonas, c'est « Vayehi debar Yehovah el Yona ». Ça va jusque-là? Voilà, je frime un peu, excusez-moi. Vayehi, en fait, c'est, on peut le traduire par Vayehi de Bar Yehovah, c'est je suis parole de Dieu pour Jonas. Mais pour les Juifs, ce début du livre de Jonas, je vous invite à le lire, c'est vraiment avec un autre regard. Le premier mot, j'en parlais à un groupe de prière il y a quelques jours. Vayehi, un juif ne peut pas lire ce mot-là sans penser automatiquement qu'il parle de Dieu. Parce que Vayehi, rappelez-vous Moïse qui est dans le désert, qui garde des moutons, et puis il n'est pas encore appelé par Dieu, et puis tout à coup il voit un buisson qui brûle sans se consumer. Alors il s'approche, et là, il entend une voix qui dit « ôte tes sandales parce que le lieu sur lequel tu tiens est saint ». Et puis il entend Dieu qui l'appelle à aller vers Pharaon pour aller délivrer les Juifs qui sont en esclavage. Honnêtement, Moïse il dit « c'est gentil d'avoir pensé à moi, mais j'ai un petit problème, je bégaye ». Donc « aller parler en ton nom à Pharaon », c'est vraiment le terme qui est utilisé. Il avait un problème d'élocution. Et alors Dieu lui dit « c'est pas grave ». Je mettrai ton frère Aaron à côté de toi, il sera ton porte-parole. Ah ouais, d'accord. Mais écoute, Seigneur, les Égyptiens, ils ont des dieux avec des têtes de chacal, avec un tête de faucon, avec des noms, Isis, Osiris, Horus, Anubis. Si je vais vers Pharaon, je dirais que je viens au nom de quel dieu? Et c'est là que Dieu dit... En hébreu, Vayehi, Vayeha. C'est-à-dire, je suis celui qui est. Je suis celui qui est. Je n'ai pas d'autre nom. Je suis celui qui est, celui qui existe. Je n'ai pas besoin d'avoir un nom, une image, etc. Je suis Vayehi, Vayeha. Quand un juif commence à voir ce mot Vayehi, à l'intérieur de ce mot, il y a les 4 lettres. Qui sont les lettres du nom de Dieu en hébreu. Et le livre de Jonas, quand il commence par « Vayehi », ça veut dire que Dieu pénètre dans sa vie et vient, je dirais, le confronter à quelque chose de nouveau. Pâques, c'est pertinemment le moment où Dieu pénètre dans l'histoire des hommes pour la transformer de fond en comble. Pâques, c'est pour un homme et pour une femme, un moment décisif, est-ce que tu acceptes de rencontrer ce Dieu qui pénètre dans l'histoire des hommes pour en transformer le temps, l'histoire, les relations? Pas que c'est cela, l'irruption de Dieu dans le monde des hommes. Le prophète Ésaïe qui a été martyrisé, on dit qu'il a été... ligoté par ses adversaires d'Israël à un tronc d'arbre, et puis qu'il est à l'intérieur d'un tronc d'arbre, et puis qu'ils l'ont découpé ensuite en morceaux. Mais le prophète Ésaïe, c'est aussi celui qui a, dans son livre, parlé de manière la plus précise de la venue du Messie. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils, des étrangers. Parce que le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, la lumière resplendit. Voilà la promesse d'Ésaïe. Alors je vais terminer ici pour vous dire que quand Jésus dit « L'heure étant venue, il se met à table et les apôtres avec lui, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » En grec, la phrase dit « C'est avec une ardeur ardente que j'ai désiré manger ce repas, ce pain et cette coupe. » Je ne sais pas si vous êtes aussi emphatique quand vous avez des invités à la maison, vous dire « Ouais, je suis content de te voir. » Mais essayez de leur dire oh, « C'est avec une ardeur ardente que j'ai désiré que tu sois là. » Ça risque de passer moyennement et votre sincérité risque d'être un petit peu mise en cause. Tu charries un peu, tu exagères, en fais pas trop. Mais quand Jésus dit à ses disciples « Avant de monter sur le mont Golgotha avec une croix, quand il leur dit « C'est avec une ardeur ardente que j'ai désiré prendre ce repas. » Il leur dit « Si vous saviez le prix que ça va me coûter de pouvoir prendre cette coupe, ce pain, parce que l'un représente ma chair, l'autre représente mon sang. » Et les disciples ne comprennent pas. La preuve, c'est que juste après le partage du repas, et c'est ça qui est intéressant dans l'évangile de Luc, qu'est-ce qu'ils font? Ah, ils chantent des cantiques. Ah, il y en a un qui se met au ukulélé, puis qui dit, ah oh, Seigneur, on va te chanter un cantique. Non, non. Alors que Jésus vient de dire avec quelle ardeur ardente, il a voulu prendre ce repas, et le prix que ça va lui coûter, il y en a un qui commence à dire, oui, mais alors, de nous, c'est qui le plus grand? C'est qui le plus... Bon, là, il n'y a pas de doute ici, c'est moi. Oh, je vois des sourires, là. C'est pas sympa, Juliette, hein? C'est ce qu'ils font. Ils commencent alors qu'on vient de leur dire le mystère de l'incarnation et le but de Jésus qui est de mourir sur la croix. Eh bien, c'est dire, bon, alors maintenant, il faudrait qu'on sache ce qui... Alors certains disent, mais est-ce qu'il s'adressait à Pierre? Il y a un indice dans ce texte-là, c'est qu'à un moment donné, il s'adresse à tous, et puis tout à coup, il dit « Simon, Simon !» Satan est là pour vous cribler. Alors il dit « vous », mais en même temps, c'est le seul qui est nommé. Et on peut se dire que celui qui a été appelé à être une pierre sur laquelle construit l'Église a certainement dû penser « ben voilà, donc je suis prépondérant ». Non, 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 non. Pâques, c'est la découverte aussi de celui qui est le Sauveur et qui est aussi la seule autorité dans ma vie. Ni Jean-Marc, ni Michel, ni Inter. Est-ce que tu peux recevoir le message de Pâques de cette manière-là? Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole qui nous éclaire sur la profondeur de ton amour, la richesse qu'il y a pour notre foi à sonder ce que tu veux déposer en nous. Le peuple qui vivait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Nous voulons te recevoir comme cette lumière dans notre vie. Arrêtez de marcher dans les ténèbres. Te recevoir comme celui qui n'a pas hésité à aller jusqu'au bout, au bout de son amour, par grâce. Alors Seigneur, oui, Nous voulons te recevoir, t'accueillir, pouvoir partager ce salut qui nous est donné et accordé. Merci Seigneur pour ton amour. Amen.